Bonjour et bienvenue dans la grille d'été de Transistor. Tous les jours, du lundi au vendredi jusqu'au 11 septembre, vous allez entendre des rediffusions des meilleurs LEM, l'émission quotidienne. Ce sera à 10h et à 16h. Mais cette semaine, on vous propose aussi des inédits. Et voici le premier, un retour sur une année à l'université de Quimper. Les vacances sont bel et bien lancées, mais on va s'attarder sur les travaux des étudiantes et des étudiants de l'Université de Bretagne Occidentale côté Quimper, au pôle universitaire Pierre-Jacques Elias. On en a rencontré quelques-unes et quelques-uns avant leur stage pour qu'elles nous racontent leurs projets tutorés. On commence avec le Master 2 Patrimoine et Musées. Anaïs Cinquin nous présente le projet mené par 8 étudiantes, projet qui peut paraître un peu décalé avec le thème du Master, mais pas tant que ça. Il a été mené avec l'Association des Paralysés de France.
C'est le développement d'un tiers-lieu culturel nommé Librique, qui est donc adossé au pôle Kéraman APF France Handicap et qui est donc à destination des personnes en situation de handicap.
Et dans le master, d'ailleurs, quelles sont les disciplines plus particulièrement concernées par le projet ?
Justement, c'est un constat que nous avons fait quand on a commencé le projet, c'est que nous avons quelques enseignements sur le handicap, mais qui sont assez lacunaires. Et donc, quand on se confronte à la réalité, on voit qu'il y a quand même un écart avec la théorie. Et ça a donc été très formateur pour les étudiantes de participer à ce projet-là, puisqu'il n'y a pas vraiment de matière associée à ce projet, puisqu'on ne parle pas d'institution muséale, on parle de tiers-lieu, c'est différent. Et on parle de handicap, et on n'a pas beaucoup d'enseignements sur ce sujet-là.
Est-ce que vous pouvez me présenter les commanditaires ?
Oui, alors les commanditaires, donc, ce sont les professionnels du pôle Kéraman APA France Handicap, qui est un pôle qui accueille des personnes en situation de handicap, soit de manière pérenne, donc les habitants y vivent, soit de manière ponctuelle.
Oui, donc c'est un foyer où on vit, quoi.
Oui, c'est ça. Et donc ils étaient représentés par M. Gaël Le Cornec, qui est donc le directeur adjoint du pôle, et Mme Eva Kerzero, qui est médiatrice socioculturelle. Et on a eu aussi la participation de la directrice du pôle, Madame Delphine Valéry.
Donc c'était géré par l'Association des Paralysés de France.
Oui, c'est ça.
Quelle était la demande plus détaillée du commanditaire ?
Alors justement, c'était une commande qui a évolué, qui était imprécise volontairement, je pense, au début. Donc on a avancé à tâtons. L'objectif était de construire un tiers-lieu culturel, donc c'est-à-dire un lieu qui est moins institutionnel que des musées, par exemple, plus convivial, pour créer des projets culturels afin d'inviter tous les citoyens et citoyennes de Quimper à venir prendre part à ces ateliers en lien avec les habitants du pôle Kéraman, qui sont donc en situation de handicap. In fine, ce projet doit prendre pierre, j'ai envie de dire, dans un lieu dédié, d'ici quelques années. Donc le pôle Kéraman APF France Handicap construira un tiers-lieu physique dédié à Librique. Pour le moment, c'est juste un concept, un projet en développement. Et le but est donc de développer la culture sous toutes ses formes, que ce soit l'expression corporelle avec la danse, le théâtre, des expositions, pour justement inviter tous les citoyens et les citoyennes de Quimper à se rencontrer autour de projets comme celui-là.
Vous pouvez m'expliquer un petit peu le nom Librique ?
Oui, alors Librique, ça s'écrit L'HYBRIK, qui signifie en fait lieu hybride fabrique Kéraman. Et donc c'est un lieu qui est là pour développer l'expression artistique et les compétences des habitants du pôle de Kéraman. C'est un lieu qui est totalement autonome aussi par rapport au pôle. Le pôle est simplement adossé à ce projet-là, mais Librique a son identité propre. Et ça permet également de proposer des activités culturelles et d'être complémentaire dans les lieux culturels quimpérois.
Des activités plutôt par la pratique, donc, si j'ai bien compris.
Par la pratique et par l'exposition.
Comment est-ce que vous avez procédé en termes de méthode pour réaliser ce projet tutoré, qui a duré combien de temps d'ailleurs ?
C'est un projet tutoré qui a duré à peu près 4 mois. Et le procédé de réalisation a été très intéressant pour les 8 étudiantes, puisque nous avons eu plusieurs réunions avec nos commanditaires, mais aussi avec les habitants du pôle, qui nous ont apporté énormément en termes d'idées pour pouvoir consulter toutes les activités qu'on pouvait faire, aussi leurs envies, qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire de Librik, puisque ça les concerne également. Ils nous ont également partagé leurs compétences. Ce sont des gens qui sont artistes, font de la peinture, de la musique, de la danse. Ils avaient beaucoup de compétences. Et donc, en relation étroite avec les commanditaires du pôle, avec les habitants et bien sûr les référents universitaires, nous avons donc établi trois champs d'action. Le premier, c'est le développement d'un maillage de partenaires culturels sur le territoire de Quimper. Donc on a rencontré plusieurs artisans, artistes, galeries pour pouvoir faire des activités en partenariat avec les acteurs locaux de Quimper. On a développé aussi une communication avec des affiches, un réseau social. La Librik a son compte Instagram. Et puis une exposition. Entrée en matière qui a eu lieu entre le 6 décembre et 4 janvier 2026 et qui mettait à l'honneur les œuvres de l'artiste combritois Pierre Thomas, qui est un artiste atteint de cécité et qui fait de la macrophotographie, du sténopé et de la peinture sur tissu. Et donc ça a abouti à un très beau vernissage le 5 décembre 2025 qui a, je crois, marqué les mémoires.
Et puis, vous avez donné, en fait, à l'équipe de Librik de quoi continuer, c'est ça ?
C'est ça. En fait, chaque champ d'action que nous avons développé a fait l'objet d'un catalogue, pour la communication, un catalogue pour les ateliers, qui soit fait en autonomie ou avec des partenaires, afin que Librik ait toutes les clés en main pour pouvoir ensuite, sur une pérennité assez longue, développer des ateliers et favoriser la mixité sociale.
Qu'est-ce que ça vous a apporté déjà à vous personnellement, Anaïs, ce projet ?
Ça a été un projet très riche, très humain. C'est vrai que le handicap est quelque chose qui me concerne personnellement et vouloir développer des actions culturelles, c'est nécessaire. C'est encore un gros chantier, surtout dans les études que nous faisons, on le voit bien, il y a beaucoup à développer encore pour pouvoir rendre accessible la culture. Et donc, humainement, ça a été valorisant. Rencontrer toutes les personnes de Librik, que ce soit les professionnels ou les habitants, a été quelque chose qui m'a beaucoup touchée et beaucoup émue. Et je crois que l'ensemble du groupe partage mon avis.
Et pour le master patrimoine et musée, plus généralement, qu'est-ce que ça apporte ce type de projet ? Vous l'avez dit, un petit peu atypique.
Déjà, sur un CV, c'est très intéressant quand on souhaite ensuite travailler avec d'autres structures culturelles, puisqu'on a de bonnes bases et de bonnes compétences du coup, pour pouvoir continuer à travailler avec un domaine du coup, qu'on a apprivoisé, qu'est le handicap. Et puis, ça, je pense, permis de démystifier peut-être les craintes qu'on peut avoir quand on parle de handicap, parce que ça peut être une notion très floue. Et s'y confronter concrètement, je pense que ça a fait des professionnels aguerris pour la suite.
Et puis parce que les patrimoines et les musées ont besoin aussi d'être accessibles. Il y a ça aussi, j'imagine.
Oui, c'est ça. Alors les lieux culturels aujourd'hui, ils développent leur propre identité, c'est normal. Et donc le handicap prend une place en plus, c'est-à-dire qu'on va rendre accessible surtout pour la mobilité. Mais quand on veut développer des médiations à destination de personnes en situation de handicap, c'est souvent très isolé, ponctuel. C'est pas l'identité première d'un lieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail et c'est là que Librik est vraiment complémentaire pour le tissu culturel quimpérois. C'est parce qu'elle fait du handicap un levier pour pouvoir permettre ces expressions culturelles, mais au-delà du regard médical. C'est pas simplement une situation médicale et corporelle, etc. Ça va vraiment au-delà et ça permet la rencontre.
Est-ce que vous avez, si ça existe, des lieux équivalents ailleurs qui vous auraient inspiré d'ailleurs ou pas ?
Alors là, on n'a pas vu d'équivalent malgré nos recherches.
Un autre projet tutoré du Master Patrimoine et Musée du Pôle Pierre-Jacques Elias de l'UBU à Quimper. Il est mené cette fois en première année par quatre étudiantes, dont Adèle Thirault et Sarah Guyot. Elles ont travaillé autour de l'homme qui a donné son nom à la fac.
C'est un projet tutoré autour de Pierre-Jacques Elias qui a été commandité par la mairie de Poudrezic. Et ça fait 7 ans que la mairie de Poudrezic travaille avec l'UBU pour faire des projets tutorés de M1. Et chaque année, le but, c'est de travailler autour d'un aspect différent de l'œuvre de Pierre-Jacques Elias. Donc il y a eu par exemple le théâtre, les contes, l'année dernière c'était la poésie et cette année on travaille autour des mémoires, donc de la façon dont son œuvre est transmise jusqu'à aujourd'hui, les acteurs, etc.
Alors il faut peut-être nous présenter un peu Pierre-Jacques Elias et ses liens avec Poudrezic.
Pierre-Jacques Elias est né à Poudrezic et c'est un auteur du Bigoudin qui est notamment connu pour avoir écrit Le Cheval d'Orgueil. C'était également un professeur. Il est agrégé de, enfin, il était agrégé de littérature puisqu'il est mort en 1995, il me semble. Et donc c'est une figure importante de la littérature du Finistère, parce que Le Cheval d'Orgueil a eu un retentissement national et même international, parce qu'il a été traduit dans plusieurs langues, même en japonais par exemple. Il y a eu un film qui a été fait, et donc ça a vraiment mis en avant la Bretagne à l'échelle nationale et du monde.
Alors comment avez-vous travaillé pour collecter ces mémoires ?
D'abord, en fait, notre sujet, c'était de faire 5 panneaux donc de type roll-up. Et pour ça, on s'est immergé dans son œuvre en lisant ses ouvrages, donc, comme par exemple Le Quêteur de mémoire. On a aussi été au CRBC à Brest, grâce à Manaïk Thomas et Ronan Calvez, qui connaissent bien son travail, on a pu être aussi orienté vers la pluralité de ses mémoires.
Est-ce que vous avez découvert des nouveaux documents de mémoire qu'on ne connaissait pas, qui n'étaient pas justement au Centre de recherche bretonne et celtique ?
Alors, notre travail, ce n'était pas forcément un travail de recherche, en fait. C'était vraiment de créer une exposition, parce que c'est le même format depuis le début de la mise en place des projets tutorés avec la mairie de Poudrezic, c'est-à-dire faire 5 panneaux et faire une mallette pédagogique avec des jeux qui pourraient potentiellement être prêtés à des écoles, etc. Donc nous, on a fait un travail de recherche pas pour écrire les panneaux, pour créer les jeux, mais ce n'était pas forcément découvrir de nouvelles informations, plutôt mettre en lumière des informations qui avaient été trouvées par des chercheurs comme Manaïk Thomas ou Ronan Calvez. Mais c'est vrai qu'on n'a pas d'informations inédites à donner sur les mémoires de Pierre-Jacques Elias.
Donc, vous avez fait des panneaux et vous avez fait une mallette pédagogique. Alors, sur les panneaux, qu'est-ce que vous avez choisi de mettre ?
Alors, on a beaucoup parlé de l'aspect quêteur de mémoire, pour rappeler son livre, le fait que lui, eh bien, il cherchait à collecter différents témoignages à travers toute la Bretagne. Et après, on a aussi parlé des bâtisseurs de sa mémoire, donc que ce soit les chercheurs qui ont travaillé sur lui après, par exemple, sa famille ou des amis qui ont pu transmettre des témoignages, et lui-même, comment il a voulu construire sa propre mémoire, parce qu'il a fait don de toutes ses archives, il avait prévu qu'après sa mort, toutes ses archives soient données au CRBC. Donc, il avait aussi pensé lui-même la façon dont son œuvre allait poursuivre après sa mort, donc c'était mettre un peu en valeur tout ça et surtout les acteurs autour de ce travail.
Et la mallette pédagogique, qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Alors on a 2 jeux donc à destination des enfants, donc un jeu N-Clask, donc c'est une sorte de Cluedo où donc il y a pas de meurtre. Là c'est une histoire où Pierre-Jacques Elias a collecté un témoignage d'une personne. Et les enfants doivent trouver qui était cette personne, donc parmi 11 personnalités qui ont côtoyé Pierre-Jacques Elias, donc comme Pierre Trépeau ou encore Jean Villard. Et un second jeu sur la 7 familles, donc un classique, mais là c'est 7 familles en fait reprennent des thématiques que Pierre-Jacques Elias a eu dans toute sa vie. Donc par exemple on a une thématique sur les contes, il a écrit plusieurs contes sur les romans, sur aussi les traditions bretonnes qu'on retrouve beaucoup dans son travail. Donc c'est vraiment en fait des jeux pour apprendre à mieux connaître Pierre-Jacques Elias.
Quel sera le devenir de l'exposition, enfin des outils que vous avez conçus?
Ils vont être amenés à être exposés, notamment lors des journées du patrimoine, où toutes les mallettes pédagogiques qui ont été faites par le passé et tous les panneaux qui ont été faits par le passé sont exposés à la maison, dans la maison natale de Pierre-Jacques Elias à Poudrezic. Et sinon, elles sont aussi faites pour être prêtées pour des classes, par exemple, où toute personne qui voudrait demander à la mairie de Poudrezic le pourrait, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est dans des classes ça a vocation à être prêté.
Qu'est-ce que ça vous a apporté en termes personnels et professionnels, cette expérience ?
Alors déjà, de créer des jeux, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Donc là, on s'est aussi appuyé, par exemple, sur une graphiste, sur une entreprise de création de pions tradés. Donc c'est aussi de faire le lien et d'avoir une vision d'ensemble aussi sur un sujet qu'on pouvait moins connaître. Parce que c'est vrai que Pierre-Jacques Elias, pour moi, je ne connaissais pas, ou de nom vraiment très loin, comme il porte le nom de l'UBO à Quimper. Donc c'est aussi de pouvoir appréhender en fait un nouveau sujet.
Oui, je suis d'accord. C'est vraiment le fait de devoir travailler avec d'autres personnes parce qu'en fait, dans le cadre des cours, bah, quand on doit faire des exposés ou même des fois, ça nous est arrivé de créer un peu des médiations, des jeux, mais on n'a de compte à rendre à personne puisqu'on crée notre médiation. Après, certes, on a une note, mais bon, le jeu est déjà fait. Alors que là, il y avait vraiment la notion du commanditaire, des commanditaires, la mairie qui devait valider ce qu'on faisait. Et après, le travail avec la graphiste ou alors avec, bon, à faire imprimer en 3D, par exemple, des pions. Donc, c'est vraiment cette notion de travail avec plusieurs personnes différentes qui était très intéressante. Et oui, en apprendre plus sur la vie de Pierre-Jacques Essélias, parce que pareil, je ne suis pas du tout bretonne, donc ce n'était pas un nom qui me parlait avant d'arriver ici. Et bah, c'est toujours intéressant d'en savoir plus sur l'endroit où bah, on habite, même si on ne vient pas de là.
Également en Master 1 Patrimoine et Musées à Quimper, Héloïse McDonard et Alice Audinet, avec deux de leurs collègues, se sont intéressés à l'anniversaire de la Cinémathèque de Brest.
2026 signe les 40 ans de l'association de la Cinémathèque, basée à Brest. Et donc on nous a mandatés pour valoriser leur collection le temps d'une année.
On vous a demandé quoi précisément ?
Alors, il y avait une fiche mission, ils ne savaient pas trop encore quoi nous proposer puisqu'ils sont en plein déménagement, mais ils avaient envie de valoriser leurs fonds. Et donc, on a discuté et réfléchi avec eux sur comment mettre ça en avant. Et on s'est dit qu'en fait, comme c'était l'anniversaire de l'association, on avait envie, nous, de mettre en avant les acteurs et les figures de l'ombre de la Cinémathèque, comme par exemple les bénévoles ou toutes les personnes qui ont travaillé avec leurs fonds, leurs archives ou tous les supports vidéo et aussi les machines qu'ils ont à la Cinémathèque. Et donc, pour ce faire, on a procédé à des entretiens en fait, patrimoniaux avec les différents acteurs, comme par exemple donc, les bénévoles ou alors des réalisateurs de cinéma amateur, même le fondateur André Colleux de la Cinémathèque de Bretagne. Et on a encore d'autres entretiens à venir. Et donc, c'est vraiment une manière pour nous de mettre en avant des figures qui ne sont pas forcément mises en avant, puisque c'est plus les salariés qui ont déjà été interviewés ou qui sont plus visibles dans les médias.
Et donc, ça prend quelle forme les entretiens ? Enfin, déjà, vous en avez compté combien à peu près ? Et puis, sous quelle forme ?
Le projet, c'est d'en faire 8. Et à chaque fois, on rencontrait la personne. On a, alors, il y a des gens qui sont plus bavards que d'autres. Donc, ça va de peut-être une demi-heure à une heure de rush.
Donc, vous enregistrez ou vous filmez ?
Oui, on filme avec du matériel prêté par la fac. Et après, on procède au montage. Là, on est en pleine phase du montage, en fait.
Ah oui, quel sera le rendu alors finalement ? Le livrable, ça sera quoi ?
Donc tous les rushs vont être disponibles sur le site de la Cinémathèque, donc sur les fonds, ils seront disponibles à tous et toutes. Et les rushs qui sont montés, ils vont être mis dans une espèce de newsletter spécial anniversaire qui seront disponibles sur le site. Et donc tout le monde pourra trouver la newsletter sur le site sur lequel il y aura les vidéos et en plus de ça, une capsule qu'on est en train de monter pour fêter leur anniversaire. C'est une capsule où on a fait une sélection de plein de vidéos et de films d'archives de cinéma amateur qui mettaient en avant le cinéma amateur et la thématique d'anniversaire. Et on fait une capsule dynamique où on met plein d'images à suivre entrecoupées avec une musique qui est faite pour cette capsule. Et en fait, cette capsule, c'est une manière de mettre en avant et d'illustrer cet anniversaire et ses 40 ans. Et elle sera visible sur le site, mais aussi elle sera diffusée pendant le Festival des Inédits. C'est un festival qui regroupe différentes cinémathèques de cinéma amateur et de films amateurs. Et c'est en fait une conférence européenne.
Qu'est-ce qui est ressorti de ces entretiens ?
Eh bien, plusieurs points de vue assez divers. C'est vrai qu'il y a plusieurs questions qu'on essayait de poser à chaque fois pour voir les différents points de vue, notamment sur notre consommation aujourd'hui à l'image et au film, notamment des problématiques autour de est-ce que notre génération devrait déposer nos films aussi à la Cinémathèque, mais d'autres thématiques comme des questions un peu plus historiques sur l'histoire du cinéma amateur, des appareils, etc.
Les appareils, justement, comment est-ce que vous les avez mis en valeur dans vos captations ?
On a interviewé certaines bénévoles qui s'occupent de nettoyer notamment les appareils. Mais sinon, ça dépendait des personnes et des questions qu'on posait.
Et c'est des appareils de projection essentiellement ?
Projection, il y a beaucoup de caméras. Ils ont aussi un fond de revues, de livres aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des machines qui sont assez exceptionnelles, des sortes de jukebox, mais en fait, c'était des clips vidéo et non pas des musiques qui passaient. Donc c'était assez drôle, ils en ont deux, je crois, conservés. Donc c'est assez drôle de trouver ça à la Cinémathèque.
Je voulais sauter aussi surtout sur les machines, parce qu'en fait, ils ont un énorme entrepôt à Brest qui s'appelle le Kéros, où ils ont plus de 2000 machines qui sont entreposées. Donc il y a, donc, comme Héloïse l'a dit, des projecteurs, des caméras, des vieilles télévisions, aussi des machines pour pouvoir monter en fait, les bobines de film. Il y a aussi des pâtés baby, il y a plein de machines comme ça, comme des projecteurs qui marchent au charbon. Enfin, il y a vraiment des tas de machines qu'on se dit, mais c'est-à-dire ? Et personne ne les voit et personne ne sait où elles sont. Et donc, c'est des machines qu'ils ont envie de mettre en avant ensuite dans leur futur bâtiment. Mais sinon, pour en revenir aux entretiens, on a aussi pu discuter avec les bénévoles de concrètement qu'est-ce qu'ils font à la cinémathèque. On a pu voir en fait l'envers du décor, on a pu les filmer quand ils sont en train de travailler sur les pellicules, de pouvoir bien remonter les sons, aussi de pouvoir retrouver des sons, par exemple, de films amateurs qui ont été disparus. Comment est-ce qu'on retrouve un son sur une image de film amateur ? Comment aussi est-ce qu'on numérise des bobines de films, des pellicules, pouvoir les conserver ? Et pourquoi est-ce que c'est important en fait, de faire tout ce travail de conservation de quelque chose qu'aujourd'hui, dans une société actuelle qui est très portée sur l'image, ça nous paraît un petit peu abstrait, puisqu'on a tellement d'images autour de nous qu'on ne se rend pas forcément compte de l'importance des images d'avant ou de l'importance de les conserver.
Vous, personnellement, qu'est-ce que ça vous a apporté, ce projet ?
Déjà beaucoup de découvertes sur une forme de patrimoine qu'on n'a pas forcément l'habitude de consommer ou alors d'en entendre parler. À part, en fait, on consomme le cinéma vraiment actuel ou les grosses productions françaises et américaines. Mais là, déjà, il y a cette vision du cinéma amateur. Et aussi, d'un point de vue un peu plus personnel, il y avait un peu développé le fait d'interviewer des personnes, de discuter avec elles. Et j'ai vu qu'au fur et à mesure des entretiens, on s'améliore quand même. On est un peu plus à l'aise, on arrive plus facilement à un peu trouver des questions à poser assez rapidement, etc.
Et surtout, c'est de très belles rencontres. On a vraiment rencontré plein de profils très différents qui nous ont tous beaucoup enrichis sur plein d'aspects du patrimoine différents, que ce soit la réalisation de cinéma ou la conservation, la restauration ou des sujets dont on n'avait pas forcément l'idée. Comme par exemple l'archéologie du son ou des choses comme ça, et qui sont très fascinantes et qui nous permettent de voir en fait plein de visions du patrimoine différents, et ça ouvre vraiment notre esprit à plein de choses. Ouais.
Un autre master du pôle universitaire Pierre-Jacques Hézélias a pour thème le management des activités touristiques littorales. Mathieu Graal et Benjamin Perron nous présentent le projet tutoré qu'ils ont mené cette première année.
C'est un projet tutoré qui s'intitule « Réflexion autour de la méthodologie d'enquête des pratiques touristiques en pays de Bigoudin ».
Mais concrètement, ça consiste en quoi ?
À comprendre et analyser la fréquentation sur le territoire du pays Bigoudin Sud.
Puisque le pays Bigoudin est divisé en deux communautés de communes, on travaille avec celle du Sud pour comprendre les visiteurs, les retombées économiques du tourisme sur le territoire et la perception du tourisme par les visiteurs et les habitants.
Parlez-moi déjà de votre commanditaire, justement, la communauté de communes. C'est quelle commune ? Ça ressemble à quoi ?
12 communes. De la zone qui va de Pinmar jusqu'à Combris-Sainte-Marine. Et donc le siège de la communauté de communes est à Pont-l'Abbé. Alors majoritairement littoral, parce qu'il y a une seule commune de la collectivité qui n'est pas littorale, c'est Tréméoc. Mais sinon, le dénominateur commun, c'est l'accès à la mer et donc beaucoup de tourisme balnéaire, nautique, de nature également, parce que ça peut aller de la baie d'Audierne, qui est en cours de désignation comme réserve naturelle protégée, au rocher de Saint-Guénolé, Pinmar, toute cette côte sud qui est donc dans laquelle on trouve le Guilvinec, au lieu de l'industrie halieutique française.
De la pêche.
Et donc l'Octudy, l'Esconil, Pont-l'Abbé. Et une fois passé la rivière de Pont-l'Abbé, on arrive à l'Octudy pour rejoindre Combris-Sainte-Marine.
Quand ils vous ont contacté, quand ils vous ont présenté leur demande, qu'est-ce qu'ils vous ont demandé exactement en fait ? Parce qu'il y a bien une raison en fait pour laquelle on crée un observatoire du tourisme.
c'est de compléter des données déjà existantes, de se rendre compte que les données du tourisme en Bretagne et sur le territoire existent, mais ne sont pas suffisantes pour établir les profils qu'ils veulent pour établir leur stratégie touristique. Quand on affine, on peut cerner des profils vraiment, vraiment types auxquels on ne pense pas forcément, et des données globales qui méritent d'être précisées localement. C'est toujours intéressant à voir parce que tous les territoires sont différents et qu'on se dit que le Pays Bigoudin n'est pas forcément le Finistère Nord, que le golfe du Morbihan n'est pas forcément le Centre-Bretagne. Donc on ne peut pas forcément établir des profils de visiteurs ou de touristes, parce qu'il n'y a pas que les personnes qui restent dormir, mais aussi celles qui viennent juste pour se promener une journée, et bah de savoir quelles sont leurs attentes et comment elles pratiquent le territoire.
Quelles sont déjà les matières impliquées dans votre master qui supervise ce projet tutoré ?
Alors déjà, on a une tutrice universitaire qui est géographe, géographe du tourisme, donc Annie Ouellette, qui nous coordonne sur le projet. Avec elle, donc, on a des cours de tourisme littoral, comment le tourisme s'installe en milieu littoral. On a eu des cours de tourisme et environnement aussi avec elle. Sinon, autre cours qu'on peut mettre en application pour permettre d'accomplir ce projet, c'est un cours de méthodologie d'enquête qui nous a été dispensé au premier semestre et qui nous est très utile pour faire notre travail.
Alors justement, la méthodologie, comment avez-vous procédé ?
Alors, on a déjà fait une première visite du territoire du Pays Bigoudin Sud. Ensuite, on a rencontré...
Intégrale ?
Non, non, non. On a visité un site emblématique par commune.
Alors, on est allé évidemment au Pointe de la Torche. Nous sommes allés en baie d'Audierne à Tréguennec, nous sommes allés sur le phare d'Aigues-Mulle à Pinmar, nous sommes approchés forcément du port du Guilvinec, nous sommes allés sur les rochers de l'Esconil. On s'est un peu baladé également à Pont-l'Abbé. Il n'y a que deux communes qu'on n'a pas visitées, en fait, trois même. C'est l'île Tudy, Combrite et Tréméoc.
Ensuite, on a eu les premiers rendez-vous qui nous ont apporté plus d'informations sur la commande de départ. Et ensuite, on a commencé à travailler sur un calendrier pour savoir quel lieu on allait cibler lors de l'enquête.
Et qui étaient vos interlocuteurs, justement ?
Alors, interlocuteurs, on avait des chargés de mission tourisme. Et on avait également comme appui un organisme spécialisé dans la création d'observatoires de tourisme.
Combien de temps vous avez passé sur le terrain à examiner ou à scruter ?
Très peu de temps sur le terrain. C'est vraiment pour aller à faire la connaissance du terrain qu'on a pris le temps d'une journée et visite et dans les locaux de la communauté de communes. Sinon, le travail qu'ils nous ont demandé, c'est la mise en place d'un calendrier de déploiement à partir des indications qu'on avait, des sites à visiter en particulier. Et ça, c'était la première partie du travail au premier semestre. Et ensuite, la conception de l'enquête qui sera destinée aux visiteurs.
C'est un questionnaire, en fait.
Voilà, c'est ça.
Il y a combien de questions ? Enfin, je ne sais pas, c'est sur des questions sur quoi, en gros, quoi, hein ?
Alors, c'est des questions sur des habitudes de pratique de site, du transport utilisé, d'hébergement, de perception sur la destination et le tourisme, des lieux qui ont été visités.
Et comment est-ce qu'ils vont déployer ce questionnaire, la communauté commune du Pays Bigoudin Sud ?
Par le biais de plusieurs personnes qui vont être missionnées pour aller sur les sites et interroger les personnes pour qu'ils répondent au questionnaire.
Ah, donc ça sera du questionnaire en face à face ?
C'est ça, un questionnaire qui va durer entre 5 et 10 minutes selon le nombre de questions, puisque c'est des questions filtrées. C'est-à-dire que si tu es un habitant, tu vas avoir des questions différentes que si tu étais un touriste.
Qu'est-ce que ça vous aura apporté, à l'un comme à l'autre, d'ailleurs, de réaliser ce projet ?
C'est de voir la rigueur qu'il faut apporter dans ce genre de travail. On ne peut pas omettre les moindres détails dans la conception, par exemple, d'un calendrier ou d'un questionnaire. Mais malgré tout, on doit quand même faire preuve d'un esprit de synthèse et savoir où on doit aller pour mener cette enquête. Parce que si on fait un questionnaire qui est trop long, ce ne sera pas tenable sur le terrain. S'il est trop court, on n'aura pas les indicateurs qu'on veut. Donc il faut trouver un équilibre, en fait. Ça apprend une forme de rigueur et d'esprit de synthèse qu'on nous apprend déjà en cours. Plus que les autres années, j'ai trouvé. Ouais, ça nous permet d'être plus efficace sur le terrain. Ça a complété vraiment le travail qu'on nous apprend en master.
Et ça vous a conforté quand même dans l'idée que vous voulez travailler dans ce secteur-là ?
Ah, bien sûr, bien sûr. Déjà, comprendre comment fonctionnaient les logiciels, puisque c'est des logiciels que tout le monde n'a pas l'habitude d'utiliser. une meilleure compréhension du territoire. Je ne connaissais pas bien les communes du Pays Bigouin Sud. Maintenant, je les connais mieux. Je sais où sont chaque commune par rapport à l'autre. Et je sais ce qu'il y a maintenant sur chaque commune.
Le pôle quimpérois Pierre-Jacques Elias de l'Université de Bretagne Occidentale fête aussi cette année 2026 ses 30 ans. Là encore, ce sont des étudiants de première année du Master Patrimoine et Musées qui ont préparé les festivités de cet anniversaire dans le cadre d'un projet tutoré. Merci à toutes et tous. Merci aux enseignants de l'UBO, Julien Bachelier en particulier. Merci à Cécile Cosmao, chargée de communication du pôle Pierre-Jacques Elias.